Brume 90.7, vous êtes en direct dans Confluence Cinéma, comme chaque mercredi, avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous tous.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au programme ce jour? On va parler du film Joe, notamment.
Oui, le nouveau film de Nicolas Cage qui a le droit à une couverture des cahiers du cinéma ce mois-ci.
On va parler aussi, en troisième partie, du jury du Festival de Cannes, parce que, comme vous le savez, chers auditeurs, nous allons partir à Cannes couvrir le festival. Donc, on parlera un petit peu de ce jury, fort intéressant, ma foi.
Qui est tombé il y a quelques heures de cela.
Bien équilibré.
Oui. Et dans un premier temps, vous allez nous parler de deux films. Donc, de ton côté, Hakim, ça va être Spider-Man.
The Amazing Spider-Man 2, réalisé par le maudit Mark Webb.
Et moi, de mon côté, je vais vous parler du nouveau film de Pierre Salvadori, un poids lourd de la comédie US-française, pardon. c'est un lapsus révélateur, avec Catherine Deneuve.
Bon, qui commence? Qui prend la main?
Allez, moi, je vais commencer. Donc, The Amazing Spider-Man 2, qui sort un peu plus d'un an après le premier. Il faut savoir que, après la première trilogie réalisée par Sam Raimi, Sony va très rapidement... construire une nouvelle trilogie avec Mark Webb.
Une question de droit d'auteur a été tombée dans le domaine public. Ouais.
Et donc le nouveau Amazing Spider-Man est sorti 10 ans après le premier film réalisé par Sam Raimi. Et moi, à l'époque, j'y étais allé parce que, contrairement à beaucoup de personnes, et Raphaël fait partie de ces personnes-là, je n'avais pas d'a priori, je n'avais pas de haine envers Mark Webb parce qu'il reprenait le travail de Sam Raimi. Et j'y étais allé, j'avais trouvé finalement assez intéressant son point de vue vis-à-vis de ce personnage-là, qui là était moins un super-héros, mais était plus un justicier qui travaillait aux côtés de la police. Voilà. Après, je regrettais que Mark Webb ne s'était pas réapproprié l'univers de Spider-Man et n'en avait pas offert quelque chose de nouveau, comme ce qu'avait fait Christopher Nolan avec les Batman. Parce qu'au final, esthétiquement parlant, c'est à peu près les mêmes décors, le costume est plus ou moins identique, les monstres pareil. Donc, sur ce côté-là, je rejoignais ce que beaucoup de personnes pensaient, à savoir qu'il n'y avait rien de nouveau. Alors, The Amazing Spider-Man 2, que je suis allé voir aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle j'y suis allé, c'est qu'il y avait Jamie Foxx qui joue Electro. C'est Electro, oui. Donc, un monstre qui emmagasine toute l'énergie dans une scène assez impressionnante et assez, assez dure. Et mine de rien, j'ai trouvé le film assez jouissif à regarder car il faut dire ce qu'il est. C'est que Mark Webb a, mine de rien, un grand talent pour mettre en scène les séquences d'action. Sam Raimi est passé par là, certes. Donc, il y a toujours le spectre Sam Raimi sur... Spider-Man, mais à un moment donné, il faut accepter que la page se tourne. Et je vais plus loin, je dis que les scènes d'action que Mark Webb met en scène sont beaucoup mieux filmées, beaucoup plus jouissives, beaucoup plus virtuoses. On est dans une époque où les effets spéciaux s'améliorent, on s'en rend compte chaque semaine, chaque mois avec les nouveaux films de super-héros. Et ce The Amazing Spider-Man 2, est très plaisant à regarder. Après, je reconnais que sur 2h18, il n'arrive pas, je trouve, à équilibrer les parties consacrées à chaque personnage. On aurait voulu plus de confrontation entre Electro et Spider-Man, qui se limite simplement à deux grosses séquences, mais des séquences assez ahurissantes, d'où une scène qui se passe à Trafalgar Square où le personnage de Jamie Foxx emmagasine toute l'énergie et détruit littéralement Trafalgar Square.
Times Square, plutôt.
Times Square, pardon. Trafalgar Square, c'est à Londres. Et à la fin, il y a le bouffon vert qui revient, sous l'apparence du fils de Osborn. On va se dire, oui, encore le bouffon vert. C'est pas très original, certes. Mais voilà, à la fin, je trouve que c'est pas très bien dosé. J'aurais voulu une confrontation beaucoup plus frontale entre ces trois personnages, hein, un duel final c'est le truand, tu vois, quand ils se retrouvent tous dans l'arène. Et puis bon, ce qu'avait réussi à faire Christopher Nolan, où il avait réussi un peu à jongler avec les différents monstres, avec les différents méchants pour qu'ils se confrontent avec Batman. Donc ça, c'est un défaut que je pointerai. Mais malgré tout, il y a un Spider-Man 3 qui va se faire avec Mark Webb, avec la même équipe. Andrew Garfield, je suis pas très très fan mais plus on le voit dans le contenu de Spider-Man, plus on s'y habitue. Voilà, moi, c'est un film que je vais défendre coûte que coûte parce que je ne comprends pas ces personnes dont tu fais partie, Raphaël, qui chient sur ce type, je me permets l'expression, et qui, voilà, renie. C'est pas parce qu'on a reléguer Sam Raimi sur la touche, qu'il faut automatiquement boycotter et offusquer cette nouvelle franchise avec ce metteur en scène-là. Donc moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui disent du mal sans avoir vu le film, allez voir le film, taisez-vous et ensuite sortez des arguments qui conviennent.
Je peux dire juste un petit mot là-dessus?
Oui, vas-y.
Je n'ai rien du tout contre Mark Webb. Tu dis Christopher Nolan, c'est un très bon exemple, je trouve, puisqu'à la différence d'un Mark Webb, et j'ai rien contre lui encore une fois, c'est qu'au moins Nolan avait les coudées franches sur le projet, comme Sam Raimi en son temps, ou d'autres auteurs, même comme aujourd'hui, comme Whedon, par exemple sur The Avengers, que je n'aime pas du tout. Et je pense que ce Mark Webb n'est juste qu'un yes man, c'est-à-dire un faiseur, peut-être très bon, j'ai pas vu le film. Bah oui. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est la politique des studios et non pas les metteurs en scène qui insistent à faire des produits à la chaîne calibrés, destinés exclusivement pour vendre des jouets, sachant que maintenant Spider-Man était racheté par Disney et par Hasbro. C'est tout.
Oui, mais Star Wars a été racheté par Disney, tu iras voir Star Wars.
Oui, mais je suis pas fan de Star Wars.
Mais bon, messieurs, on n'est pas dans la partie débat, donc on va abréger un petit peu.
Pour terminer, j'aimerais vraiment que les soi-disant cinéphiles amoureux du cinéma de notre époque, d'aujourd'hui, de 2014, arrêtent de se soucier des coulisses et qu'ils aillent voir les films et qu'ils les apprécient comme des produits de divertissement sans se soucier de ce qui se passe en coulisses. Il faut arrêter. Il faut vraiment aller voir les films si on les aime, sans préjuger, sans se dire « Mon Dieu, voilà, il y a mon maître qui était juste d'avant sur le projet, qui a été mis de côté. » Non, arrêtons.
Raphaël, de ton côté, tu es donc allé voir le dernier film où joue Catherine Deneuve, notamment.
Oui, le nouveau film de Pierre Salvadori, qui est un metteur en scène français à ses côtés, quand même, avec le temps, puisqu'on l'avait découvert dans les années 90 avec un film qui s'appelait Les Apprentis, avec François Cluzet et Guillaume Depardieu. Et c'est un auteur comme ça, un peu comme, on va dire, Ozon ou d'autres, hein, un jeune auteur qui a une quarantaine d'années, qui fait son petit bonhomme de chemin, mine de rien. J'avais beaucoup aimé ses films comme Après vous, avec José Garcia, et Daniel Auteuil, qui était un peu dans la veine de sauter avec Garçon, par exemple, avec Villeray et Yves Montand. Et il est très dans la screwball comédie comme auteur. Il est très fan des comédies des années 30, tout ça, de Vider, de Wilder, etc. Et il avait fait un film que j'aimais beaucoup aussi avec Gad Elmaleh, une fois n'est pas coutume, hein, qui s'appelait Hors de prix avec Audrey Tautou. Une relation, voilà, très dans les hôtels, palace, relation très sous-entendue entre un couple, voilà, entre une femme incarnée par Tautou, qui était fan d'argent, avec un pauvre, etc. Voilà. Et il avait fait plusieurs films après avec Tautou, dont un qui est passé inaperçu au point que moi-même, je ne me rappelle même plus le titre. Passons. Et là, il nous revient avec ce film Dans la cour, avec un duo improbable qui attire déjà la curiosité, composé de la très grande Catherine Deneuve, inutile de la présenter, et de Gustave Kervern, l'un des pontes du Groland. Déjà sur le papier, moi, aimant déjà les deux personnages à la base, ça m'intrigue et j'ai envie de voir ça. Et le film retrace l'histoire d'Antoine, un musicien incarné par Gustave Kervern, qui décide de tout plaquer. Et après quelques jours d'errance, il va se retrouver concierge dans un immeuble assez à part dans le film puisqu'il se fissure, et il va progressivement se lier d'amitié avec Catherine Deneuve, qui est une femme retraitée qui s'appelle Mathilde et qui est très active. Elle travaille dans une association un peu écologiste, tout ça. Et progressivement, cette Mathilde est angoissée à cause de l'immeuble. Elle voit une fissure à son appartement. Et les deux, comme ça, vont se rencontrer, vont s'unir dans l'adversité. Et une certaine forme d'amitié, de respect va naître entre les deux mondes, quoi. Et ce qui est intéressant chez Salvadori, qui est un grand cinéaste de la névrose, hein, on pourrait dire comme Woody Allen, hein, par exemple, voilà, Après vous, c'était un suicidaire. Hors de prix, c'était des gens, des rapaces financiers, etc. Cette fois-ci, il nous livre un film très dépressif. C'est un film sur la dépression. On va très vite comprendre que Kervern est là-dedans, Catherine Deneuve aussi, même pire que ça, peut-être même dans l'hystérie progressivement, dans l'alignation. Elle a très peur de ça, d'être très angoissée et compagnie. Et on va voir toute une galerie comme ça de portraits de tous les habitants de l'immeuble qui sont tous plus barrés que les uns que les autres. Alors il y a Pio Marmaille, qui est un bon acteur, un jeune acteur qu'on voit un peu de partout dans les films d'auteurs français, qui joue un drogué. Et on va apprendre progressivement que c'est un ancien footballeur qui s'est pété en fait la jambe et qui a complètement raté sa carrière et qui est complètement devenu dépressif à cause de ça. On suit le quotidien d'un agent de la sécurité qui est dans une secte avec son chien. Donc il y a beaucoup de gags, c'est très très drôle, hein, puisque voilà, Gustave Kervern emmène cet univers-là du Groland, mais très poétique cette fois-ci. Il est très dans un côté Pierrot lunaire. Face à une Catherine Deneuve, comme d'habitude, moi je trouve que c'est, voilà, c'est la plus grande en France. Et elle sait très bien jouer de son image, elle est très drôle dans le film, elle est très angoissée. Elle ne se montre pas sous son plus beau jour parfois, on la voit sans maquillage, avec des rides, etc. Elle
non, pas peur. Ah, j'aimerais voir ça.
Elle n'a pas peur, non mais même dans tous ses films, moi je trouve qu'elle est comme ça. Hein. Elle n'a pas peur de casser son image parfois, elle le fait. Et le duo fonctionne très très bien. C'est pas une histoire
d'amour. C'est un duo atypique pourtant. Hein. C'est un duo atypique hein, sur le papier. Hein.
Oui, mais moi je pense que Catherine Deneuve a beaucoup d'humour. Et ouais. Elle est capable de, oui, d'aller dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. On l'a vu.
Film on le voit dans sa filmographie. Voilà. Quoi. De toute façon. Et puis dans ses engagements, elle a vraiment eu.
Oui, femme engagée aussi.
Femme engagée, mais surtout qui est allée vraiment à des endroits où on l'attendait pas en fait.
Oui.
Deneuve, voilà, elle a
fait
autant traîné avec.
De la comédie ou du duel.
Exactement. Souvenir de Potiche, quand même. Première séquence de Potiche, c'est. Catherine Deneuve en train de faire un footing dans une combinaison rouge avec un brushing à la Margaret Thatcher qui prend des notes en regardant notre petit coeur en train de faire l'amour. C'est quand même fou ça.
C'est ça, elle est capable de faire Astérix, elle joue la reine, voilà, ou Palais Royal et de faire un Buñuel comme Tristana, quoi. Et ça qui est génial avec elle.
Bon, il y a 40 ans d'écart entre les deux films que tu cites. Hein.
Mais même à l'époque, elle
faisait
des comédies.
Non, mais même, elle a souvent fait le grand écart, même dans les années 60. C'était à la fois l'égérie des intellos, mais en même temps, elle traînait aussi avec tout un tas de gens.
La vie de château, elle faisait, Peau d'âne, etc. Le Sauvage. C'est des grands films, des grands films populaires.
Répulsion, Polanski, donc ouais, effectivement, elle a touché à tous les gens. Et puis bon, après, on va pas faire, on va pas lister toute sa filmographie. Mais elle a, je crois que c'est une des premières, je pense, une des premières véritables actrices françaises, peut-être après Simone Signoret, à avoir su s'exploiter hors France, en dehors de l'Atlantique, aux États-Unis.
Ouais. Bah, il y a eu Bardot quand même qui a ouvert la voie quelques années avant, mais c'est vrai que
elle a eu.
Elle a vraiment su tenir la corde. C'est clair.
D'une beauté aussi dans sa jeunesse.
Incroyable. J'ai eu la chance de la voir à la conférence de presse de Potiche il y a quelques temps déjà. Ça tient la route quand même, même si ouais, faut pas trop qu'elle sourie, parce que si elle se met à sourire, ça fait, on a l'impression de voir Jack Nicholson dans Batman.
Oh, Hakim, quelle mauvaise langue celui-là, il est énervé aujourd'hui, Hakim, je sais pas ce qu'il a.
Catherine Deneuve, c'est quand même, elle devait jouer dans The Short Night, le dernier film de Hitchcock, enfin Hitchcock devait réaliser avant de mourir en 79, enfin avant qu'il ait ses problèmes de santé, et c'est Truffaut qui avait recommandé à Hitchcock Catherine Deneuve, et c'était ça aurait pu être une très bonne Hitchcockienne blonde, à l'inverse de ce que Hitchcock détestait, à savoir les Marilyn Monroe, les Brigitte Bardot, ces filles qui ont le sexe écrit sur le visage. Donc voilà, il préférait largement ces filles discrètes, petites, menues avec des petites lunettes, qui, une fois enlevées les lunettes, étaient capables de vous faire une petite pipe. Hein. Voilà. C'est ce qu'il aimait bien Hitchcock.
Hakim tombe dans ses obsessions.
Ouais. Conclusion de Raphaël sur ce film-là, un dernier mot avant qu'on passe à la musique.
Juste pour conclure, c'est un joli film, mais attendez-vous pas, puisque Salvadori nous a habitués à des comédies ensoleillées ou vraiment très drôle, etc. Et la Screwball, comme je disais, c'est vraiment un film sur la dépression, comme Mélancolia, par exemple, autre cinéaste avec qui a tourné Catherine Deneuve.
À ce point-là, c'est
ouais, si ouais, ça bascule progressivement plus dans le drame, et la fin est très très belle, je ne veux rien dévoiler, mais c'est un très beau film.
Allez, un petit morceau de musique, et on se retrouve pour le film Joe.
Turn into that's all done. 'Cause we burnt out. That's what you do. When you have everything, it can't be true. La 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 la.
L'entretien.
Deuxième partie de cet entretien à Confluence Cinéma, comme chaque mercredi. Et nous allons maintenant parler du film Joe avec Nicolas Cage, c'est ça ?
Oui, Joe avec un E à la fin et non pas de Joe, le film avec De Funès, hein, déjà.
Et je me dis
dichotomie.
Oui, je rectifie ce que j'ai dit en introduction. Non, Joe ne fait pas la couverture des cahiers. Par contre, il y a un gros article dessus.
Qui m'embête bien, puisque j'avais l'intention de faire quelque chose un peu similaire là-dessus.
Mais avec un titre.
C'est une autre histoire.
Voilà. Mais ça, c'était avant.
Alors oui. Moi, comme ça, j'ai pas lu grand-chose sur le film. Mais je sais pas, quand j'ai vu l'affiche plusieurs fois dans les magazines ou quoi, ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Et,
par contre, la bande-annonce est ultra mensongère.
Oui.
Il ne faut pas se fier à la bande-annonce.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce Joe ? Vous pouvez nous faire un petit peu le pitch ?
Je pense que tu pourrais aimer, Amaury, dans la mesure où ça se passe dans le sud des États-Unis, un peu comme True Detective, quelque part, puisque le film nous retrace l'histoire de Joe, incarné donc, par Nicolas Cage, qui va prendre sous son aile un petit gamin qui a 15 ans, incarné par Ty Sheridan, qu'on avait vu dans The Tree of Life et dans Mud.
Et dans Mud, il est excellent.
Ouais,
quoi.
Dans Mud. Et cette fois-ci, il va jouer un gamin qui est un peu frappé par son père, qui a envie de travailler, de s'en sortir quand même.
Bah, qui vit dans un monde un peu bizarroïde. Quoi. Ça,
ouais, c'est pas rednecks.
Des rednecks. Ça, il a une petite fille, une petite sœur qui ne parle plus. Sa maman qui est complètement absente, qui est shootée à longueur de journée, et son père alcoolique qui le frappe tout le temps, enfin qui est alcoolique mais qui c'est pas un, son père n'est pas un gros dur non plus, hein, c'est
même qui souffre, on sent
qui
quand
souffre,
même
un vrai redneck avec une grosse barbe, une personne qui n'a à première vue ne s'est pas lavé depuis quelque temps.
Et donc voilà, Nicolas Cage est un employeur qui coupe des arbres dans les forêts,
qui les empoisonne.
Oui, mais après, il les coupe, justement pour purifier les terres pour des riches propriétaires. Et il va prendre le gamin sous son aile et progressivement, on va prendre son passé. Il est assez mutique, Nicolas Cage, il est assez mystérieux. Et progressivement, il va se laisser un petit peu embarquer dans cette histoire de protection.
C'est un peu comme Mud, hein. Sauf que le cadre est différent.
Je n'ai pas encore vu Mud.
C'est ça, moi quand j'ai vu rien que l'affiche, ça m'a vraiment fait penser à Mud, qui est un film que j'ai adoré, moi, personnellement. Et c'est vrai que j'ai déjà trouvé qu'il y avait un petit univers quand même.
Alors, tout de suite, j'aimerais juste présenter le metteur en scène aussi, qui est quand même important. Hein, c'est David Gordon Green, qui est un metteur en scène que je connais, puisqu'il est dans la bande Apatow à la base. C'est un metteur en scène Mais c'est ça, c'est assez bizarre. C'est un metteur en scène de comédie qui vient de Delir Express, qui a fait des films avec Jonah Hill qui s'appelait Babysitter malgré lui, donc des films à 300 milliards de kilomètres de Joe, qui a fait des séries télé comme Miss Bone and Done avec Danny McBride. Et il a fait un film dernièrement qui s'appelait Prince of the Texas avec Paul Rudd, autre protégé de la bande Apatow. Et c'était aussi un drame dans le Texas, tout ça, tu vois, un peu les Rednecks et compagnie. Et là, il revient avec ce Joe qui est, je pense, une ode entre guillemets à Nicolas Cage. Donc je vais parler.
Comme l'était The Wrestler pour Mickey Rourke.
Par exemple, c'est un bon exemple.
Ou même Crazy Heart pour Jeff Bridges.
Et j'ai envie de dire, mais je développerai après, même de Gran Torino, comme l'était Gran Torino à Clint Eastwood, par exemple. Et donc, je vais juste expliquer deux secondes pourquoi j'aime Nicolas Cage.
Parce que explique-nous pourquoi cette communauté qu'on appelle geek vénère.
Mais ce n'est pas des geeks, arrête avec
mais si, il y a que vous qui aimez, qui vénérez un culte pour Nicolas Cage, arrêtez.
Il est intenable aujourd'hui avec
Amaury. Amaury n'est pas un geek, je pense, aime beaucoup Nicolas Cage.
Moi, je suis l'anti-geek et moi, j'aime bien Nicolas Cage.
Alors, justement, pourquoi on l'aime? Pour deux raisons, justement, pour deux catégories. Moi, je l'aime à deux niveaux. Je l'aime au premier niveau, c'est un immense cinéaste, acteur, qui a tourné avec les plus grands, qui a l'un des plus beaux CV pour moi d'Hollywood, tourné avec John Woo, Coppola, David Lynch, Scorsese, etc. Les plus grands metteurs en scène contemporains.
Et les 10 ans de Nanart, t'en fais quoi?
Bah, j'y viens. Donc ça, c'est le premier niveau, un très grand acteur qui a fait ses preuves, qui a gagné l'Oscar avec Leaving Las Vegas et compagnie. Et on l'aime aussi aujourd'hui à un autre niveau, ce qui est aussi mon cas, on va dire un second degré, une ironie, puisque l'acteur effectivement se traîne une mauvaise réputation depuis 10 ans à cause de très mauvais films, je le conviens, mais où il est toujours très drôle dedans, puisque Nicolas Cage est un adepte de deux types de jeux, qui est l'overplay et l'underplay, c'est-à-dire le sous-jeu et le sur-jeu. Et c'est un acteur qui est très drôle pour ça, voilà, les Tumblr se multiplient à cause de ça. Lui-même, dans l'interview des Cahiers du cinéma et dans Technicart aussi, il revient, il est conscient de tout ça, et il en a marre justement de ça, puisqu'il a eu beaucoup de problèmes financiers, ce qui a expliqué ses gros nanars, voilà,
un peu comme
Ghost Rider et compagnie.
Comme Jean-Claude Van Damme, il est conscient qu'il a fait de la merde, et de temps en temps, il fait le CVD.
Sauf que la différence, c'est que Nicolas Cage était un très grand acteur, et comme d'autres acteurs avant lui, ils se sont perdus. Marlon Brando, à la fin de sa vie, a fait beaucoup de merde. Gérard Depardieu, aujourd'hui, fait beaucoup de merde.
Ouais, mais là, Nicolas Cage n'est pas à la fin de sa vie, fin de sa carrière.
Mais justement, Joe arrive, et ce que j'aimais dans ce Joe-là, c'est que Nicolas Cage, quelque part, fait une synthèse de son œuvre. Et donc, ça me rappelle en ça Gran Torino avec Clint Eastwood. Donc, pourquoi ? Gran Torino reprenait déjà, je trouve, tous les rôles de Clint Eastwood à l'époque. C'était un mélange entre Kowalski et tous les autres personnages, genre Thierry et compagnie, qu'on retrouvait dans le personnage de Clint Eastwood. Et là, on retrouve un peu tous les personnages qu'avait incarné Nicolas Cage. On retrouve le côté alcoolique de Leaving Las Vegas. On retrouve le côté... petite ville, etc., qu'on retrouvait dans les films de son nom Coppola, dans Rusty James et compagnie. On retrouve le côté sud qu'on avait dans Bad Lieutenant, par exemple, ou Sailor à Lola. Et on retrouve ainsi tous ces tics. On retrouve le côté cigarette qu'on retrouve dans tout le film. Le briquet aussi, tous les jeux.
Le bruit qui attire les femmes.
Ça, c'est ce qu'on appelle du style Nicolas Cage. Voilà. Mmh. C'est tous les petits détails à la con, comme ça, mais qui font l'aura du mec, en fait. Évidemment, il n'y a pas ses cheveux cette fois-ci, mais la barbe. Il s'est fait un look. On retrouve sa posture en avant un peu voûtée comme ça. Mmh. On retrouve tous ces tics. Et pour la première fois, ce qui est intéressant aussi à noter, on retrouve ces tatouages aussi. On voit le tatouage du Ghost Rider, qui est, je pense, c'est un autre débat, hein, mais un point intéressant dans sa carrière. Mais voilà, on retrouve tout ça. Et comme Gran Torino, on retrouve un peu les mêmes thématiques, je trouve. Tu sais, l'homme d'un certain âge qui va prendre un gamin sous son aile. On retrouve le chien.
Oui, mais dans Gran Torino, il y avait quand même la question du racisme, du gars qui avait des préjugés.
Oui, il y avait, mais là aussi, il y a quelque part des préjugés, puisque le gars a quand même vécu, on le saura plus tard dans le film, c'est un ancien tolard.
C'est pas pareil.
Oui, mais attends, écoute deux secondes. T'as les bandes rivales qui vont faire chez Nicolas Cage, un peu comme Gran Torino. La fin est assez similaire, t'as la bagnole en transmission, t'as énormément de points communs. Mmh. Et c'est en plus la synthèse des deux acteurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à Nicolas Cage.
Bon, moi, le film, je l'aime un peu moins que toi. Déjà, je trouve qu'au niveau du traitement du scénario, il part un peu dans tous les sens. Il y a cette histoire avec cet ancien bandit, enfin, cette histoire, ce mercenaire ou ce criminel à qui Joe avait cassé la gueule quelques années auparavant, et qu'il a réglé ses comptes. Bon, ça arrive au début, après, il disparaît. Après, il y a un petit moment très documentaire au début du film, un peu comme dans The Wrestler, où on nous montre ce côté un peu ouvrier, comment il détruit ses armes. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a l'histoire de ce gamin qui est issu d'un milieu très modeste, où il se fait battre par son père. Bon, on a un petit commentaire sur les différentes classes sociales. petite analyse sociologique de ce milieu. Bon, très bien. Mais je trouve que ça, finalement, tout n'est pas assez mixé. Après, tu pars un peu dans le polar, ça se termine de façon... Bref, je trouvais qu'au niveau des thématiques, tu n'es pas assez bien rythmé, mixé et digéré dans le scénario. Bon, voilà.
Là-dessus, après, Hakim, je te coupe deux secondes. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut le reconnaître.
Après, c'est un film qui, classiquement, est assez joli à voir. Bon, voilà, la nature... n'est pas mis au second plan, mais au contraire, elle est mise en avant, elle participe un petit peu à l'ambiance du film, à la narration. Après, moi, sur Nicolas Cage, je suis désolé. Je trouve que c'est un bon comédien, mais sans plus, je n'ai pas une vénération pour cet acteur, au même titre que d'autres acteurs que j'apprécie. Je trouve que dans ce film, il est un peu parachuté par hasard. Effectivement, tout le monde le dit, c'est le film qui... on l'espère, le remettra au second plan. C'est le film qui a permis la renaissance à Mickey Rourke, voilà, The Wrestler, le film qui a remis sur les bons rails Jeff Bridges avec Crazy Heart. Tout à fait. Sauf que là, dans ces cas-là, c'est des acteurs qui avaient le physique, qui avaient de la carrure pour rentrer dans l'univers que dépeignaient ces films.
Nicolas, on va redéplacer un petit peu le débat quand même sur le film plutôt que sur Nicolas Cage. Le film en soi,
Moi, ce qui m'a déplu en film, je trouve que Nicolas Cage est complètement déconnecté de tout l'univers qui l'entoure. C'est un univers, il évolue dans un univers de redneck, de personnes au bout du rouleau, d'alcooliques, d'hommes défigurés. Il travaille avec des noirs qui ont des mimiques assez horribles et on ne les montre pas sous un beau angle. Il se confronte au père du jeune fils qui est un clochard littéralement. Le bandit avec qui il a eu une sale histoire qui est complètement défiguré. Et lui, il est en plein milieu, bien rasé, avec une barbe bien taillée, le teint blanc... on n'a pas l'impression que c'est une personne qui a eu un passé, qui a vécu depuis le début dans cet univers assez glauque.
Il a un autre parcours que les autres, quand même.
Je trouve que physiquement, autant, tu vois, je cite Mickey Rourke, tu vois, dans The Wrestler, il était crédible dans le rôle de ce catcheur qui vivait dans une roulotte et qui se tapait des prostituées, ce qui est le cas un peu dans Nicolas Cage dans ce film-là.
Il n'est pas au bout du rouleau dans le film Nicolas Cage. Contrairement, il a une situation, il est intelligent, ouais. Il a un recul sur la situation. Tu ne peux pas dire le contraire, Hakim.
Il a pas
seul qui a à peu près une maison correcte, une vraie un animal, entre guillemets, une petite amie, une bagnole normale, contrairement à tous les rednecks, etc.
Ouais. Il aurait été pas maquillé, tu vois. On l'aurait mis un peu des rides, on aurait creusé un peu son passé, son visage, il aurait été crédible. Et moi, je trouve que ça me dérange. Durant tout le film, je le voyais, je dis, mais jamais je ne peux croire que ce type-là, avec son physique, il puisse avoir une vie dans ce milieu-là. Il est en adéquation totale avec tout ce qui l'entoure. Et c'est pas parce qu'on l'a mis une petite chemise à carreaux, qu'on lui a fait pousser une barbe et qu'on lui a fait boire on le fait boire du whisky, on le fait fumer des clopes à longueur de journée, on le fait conduire un van.
Mais c'est lui, il est vraiment comme ça.
Il est pas. Moi, je trouve.
Bah, dans El Driver, qui était une merde déjà, on voyait tout ça. Il y avait le Jack Daniels et puis la prostituée.
Et là, je vois El Driver. Je vois Ghost Rider dans le film. Je vois pas un redneck. Je vois pas un gars qui a un passé dans.
Mais
ce...
bon, pour en venir.
Mais le film en soi.
J'allais revenir un peu sur le film. Moi, ce que je trouve déjà en termes de mise en scène, déjà le choix des acteurs est formidable.
Oui.
Il prend que des, à part Nicolas Cage, il prend que des acteurs amateurs, par exemple.
Oui, ça c'est très bien ça.
Ils ont des gueules incroyables.
C'est ce que je dis.
Le père, voilà, Gary Poulder. Nicolas Cage déclarait qu'il était mort. Malheureusement, c'était un SDF. Et apparemment, il est mort en pleine rue.
Bah, ça se
c'est
voit.
Ça qu'il a vraiment le gars. Enfin, il est vraiment naturel, comme les acteurs noirs. Ils sont tous très très bons. Et c'est du coup très très bien. En adéquation voilà, avec le décor, voilà, le sud, les rednecks, cette moiteur, cette atmosphère un peu glauque, et ça s'y est parfaitement. Après, je suis un peu comme toi sur la structure du film, moi j'ai eu plus de mal à rentrer dedans, en fait. C'est plus sur la structure du début. Effectivement, tu as raison, il y a un peu tout au début, voilà, le balafré, les bastons, le père aussi un peu au début, les séquences sont un peu ardoises avec le gamin.
Et après, on comprend un peu à la fin que le personnage de Joe a une histoire avec le shérif.
Oui, mais ça, progressivement, on apprend des choses sur Joe, donc on ne peut pas tout dévoiler. Voilà. C'est un personnage qui est assez mystérieux au début et qui va revivre finalement. Et ça aussi, c'est intéressant par rapport à Nicolas Cage. Il revient enfin grâce à ça.
Mais ce que tu viens de dire est intéressant parce qu'il souligne ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, tout le casting, toutes ces personnes qui constituent ce paysage, qui sont des rednecks, qui sont des acteurs non professionnels, des vrais clochards, sont finalement... Nicolas Cage, au milieu de tout ça, fait tâche. Il n'est pas crédible.
Mais justement, pour moi, non. Bah ouais, parce qu'il vient de tout ça, comme je l'expliquais tout à l'heure.
C'est ça, tu vois. Eh bien, écoutez, c'est messieurs, on va arrêter un petit peu sur ce débat Nicolas Cage. On va écouter un morceau de musique et on va se laisser un petit peu le temps pour parler du jury du Festival de Cannes, parce que c'est vrai qu'il y a, pas mal de... il y a du beau monde, on va dire, et puis comment on va couvrir ce festival, c'est intéressant un petit peu
tu
de...
Tu nous guideras là-dessus quand même.
Bah, je vous guiderai et...
Obi-Wan, guide-nous.
Voilà, exactement. Allez, on y va, un petit peu de musique.
See you.
Dernière partie de cet entretien Confluence Cinéma en direct. Et nous allons donc vous présenter un petit peu ce jury du Festival de Cannes 2014.
Qui est tombé il y a deux jours, je crois. Donc Jeanne Campion, la présidente. Donc ça, c'est sûr depuis quelques mois déjà.
Alors Jeanne Campion, on peut dire un petit mot déjà rapidement.
La seule femme à avoir gagné la Palme d'Or de l'histoire du Festival de Cannes.
Oui. En 92, il me semble.
Ouais, la leçon de piano. Et tu as un mot à dire, je crois, sur sa série dernièrement, Maury.
Ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de ses films. Par contre, j'étais tombé sur sa série Top of the Lake, qui se passe en Nouvelle-Zélande, pays dont elle est originaire. Et c'est une série vraiment intéressante. C'est sur le format, tu sais, micro-série, un petit peu comme True Detective ou comme plus récemment Red Road. C'est Sundance Channel. C'est une chaîne aussi intéressante. Et voilà, elle a donc réalisé en 6 ou 7 épisodes, je ne me rappelle plus, un polar sur une jeune fille qui disparaît voilà, au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'elle a un œil assez intéressant à la fois au niveau de l'image et du scénario qu'elle met en place, des personnages. Enfin, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ses films.
Moi, j'ai vu Brad Starr, aucun. Brad Starr qui était à Cannes il y a 3-4 ans. Et je vous avoue, je me suis assez embêté devant le film. Peut-être que j'étais aussi un peu endormi, j'arrivais à Cannes. Mm-hmm. Je ne suis pas rentré dedans du tout. Ce n'est pas trop mon univers.
Parce Mais ça a permis à Thierry Frémaux de répondre à ses détracteurs qui lui reprochaient de jamais mettre de jamais programmer de réalisatrice à Cannes.
Alors dans ce choix de jury, il y a plusieurs femmes, notamment Carole Bouquet qui sera là.
C'est côté glamour là.
Côté glamour et puis comme disait Raphaël, elle est là chaque année. Donc, il s'était peut-être temps de la mettre dans le jury. Il y a une autre femme dans le jury, c'est Sofia Coppola, réalisatrice.
Qui était là l'an passé.
Qui était là l'an passé pour Bling Ring.
Qui était déjà là pour Marie-Antoinette, il me semble.
Oui. Elle avait eu Virgin Suicide, je crois, était à la quinzaine des réalisateurs.
Oui, il avait fait forte impression d'ailleurs.
Ouais, c'est une habitude de la croisette. Hein.
Voilà, donc elle était l'année dernière. Deux autres metteurs en scène qui étaient également l'année dernière, donc Jiang Ziki. Je ne prends peut-être pas bien, donc c'est le réalisateur chinois qui était là l'année dernière pour Touch of Sin, qui est reparti avec le prix spécial du jury. Le prix du jury.
Ouais, c'est ça.
Prix du jury. Un autre, Nicolas Winding Refn, mon petit chouchou. Et d'ailleurs, on se demandait si du coup il allait pouvoir revenir un peu sur le devant de la scène. Parce
après,
que
ça claque.
Ça a été une belle claque pour lui, Only God Forgives, qui a été très mal reçu. Hein, on se rappelle encore des huées, hein, Raphaël et moi.
Nous étions ensemble.
À 8h30.
Et alors vous, c'est un film en plus que vous aviez quand même bien aimé. Non,
ah oui, moi j'ai adoré.
On a tous les deux aimé.
Et là, du coup, il se retrouve dans le jury parce que Thierry Frémaux l'aime beaucoup. Et comme tu disais, Raphaël, hors antenne, Thierry Frémaux, c'est peut-être l'un des plus grands écolos du moment, car il recycle tout.
Mais c'est vrai que tous les habités cannois sont là. Quoi, comme
à partir du moment où tu as un prix à Cannes, tu te fais remarquer, tu as de bonnes critiques, tu fais automatiquement partie de la famille de Cannes. Donc, soit tu es sûr d'être repris en sélection, soit tu es sûr que tu vas faire partie du jury. Jury section officielle, ouais. Jury Un Certain Regard, jury ciné fondation, par exemple Rachid Bouchareb, j'ai vu qu'il est dans le jury de la ciné fondation. Mm. Donc voilà, tu vois, il est
oui, et puis t'as les habitués, Woody Allen, tu reviens... Almodovar, les Dardenne, Tarantino, ouais. Et compagnie.
Voilà, et après tu reviens au Festival Lumière, etc. Donc voilà. C'est un jury finalement pas si très beau jury, très glamour, avec de belles personnalités, mais pas tout à fait étonnant, pas sans surprise, parce qu'on retrouve les habitués.
Et qui est paritaire aussi, il y a autant de femmes que d'hommes. Mm. C'est l'une des premières fois que ça arrive.
Alors le réalisateur asiatique, vous pouvez nous en dire quelques mots un petit peu plus sur ce qu'il a fait.
C'est le réalisateur chinois. Bah, il a gagné le prix du jury l'année dernière pour Touch of Sin. Je crois que c'était le premier film que nous voyons à Cannes.
Ouais, t'es pas très fan.
Qu'on n'a pas apprécié à sa juste valeur, parce que je pense que c'était le tout premier. Et j'aurais bien voulu le voir ensuite parce qu'il y a eu très très bonnes critiques. C'était un prix qui était. C'est un film qui a reçu des réactions positives.
Michel Simon, etc. avait fait une
critique assez adoré. Et c'est un réalisateur chinois qui était déjà venu à Cannes avec plusieurs films, notamment Un Certain Regard, et qui est systématiquement censuré en Chine. D'ailleurs, son film n'a pas été distribué, n'a pas été projeté en Chine, ou alors il a été projeté, mais pas quelques jours, quelques semaines, et il a été automatiquement...
C'est très social, hein, c'était très violent aussi.
Il dépeint une critique de
la Chine. La lutte des classes.
Sur la lutte des classes. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont... Moi, je n'ai pas vu tous ces films, mais j'ai des amis, notamment Jean Dorel, qui a écrit sur un site qui s'appelle Asivision, qui a vu tous ces films, qui n'était pas du tout fan de ce qu'il faisait avant. Et ce film-là, l'a définitivement réconcilié avec son travail.
Puis, alors, Sofia Coppola, on sait un petit peu ce qu'elle fait en ce moment. Le dernier film, finalement, c'était ce...
Bling Ring.
Là, c'était ça, hein, qui avait été tiré d'un article de Vanity Fair sur des ados.
Sur le gang, qui rentrait dans les maisons de stars et qui essayait les robes, les choses. Ouais. Qui piquait les sacs à main et compagnie. Et là, elle a un nouveau projet, c'est La Petite Sirène, apparemment, en version live, avec des vraies actrices, je sais pas, c'est en plein boom. Peut-être qu'elle va faire un petit séjour à Cannes au bord de la mer pour s'inspirer de ça.
Et Winding, du coup
Alors, c'est le grand.
C'est grand son mystère, Nicolas Cage à Hakim.
Oh non, rien à voir.
Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé autant de Drive. J'ai pas forcément accroché, mais moi, j'avais été un grand amateur à l'époque de Pusher.
Ah, Pusher, c'est extra. Et t'as pas vu Only God Forgives?
Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Ah, mais c'est vrai que le deuxième Pusher, il est quand même formidable. Moi, j'adore Mendelsohn en plus. Et
mon grand film, il a été tourné et réalisé parce que très rapidement, Fire X avec John Turturro a été un énorme bide. Et donc, il avait je ne sais pas combien de millions de couronnes à rembourser à titre personnel pour rembourser la boîte de production qui avait coulé. Et du coup, la seule solution pour lui, c'était de réaliser deux Pusher parce que le premier Pusher avait été un grand succès. Lui, il ne voulait pas retourner d'autres Pusher. Et donc, du coup, dans ce documentaire qui est dans le coffret, qui s'appelle Gumbler, le coffret Pusher, on le voit tous les soirs en train de boire, d'aspirer, d'écrire entre minuit et 5h du matin le scénario. Je crois qu'il pond les deux scénarios en un mois. Il réalise ça alors qu'il n'en a pas du tout envie et il pond deux chefs-d'œuvre. C'est hallucinant. Et Only God Forgives a été un semi-échec. Il devait réaliser une nouvelle version de Barbarella. Il devait faire aussi un remake de L'Âge de Cristal avec Ryan Gosling. Finalement, ça ne se fait pas. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il va faire.
Si, pour moi, il va faire l'Incal adapté de Jodorowsky.
Et ah ouais, pas mal ça.
Et comme Jodorowsky, le film était dédié à Only God Forgives, c'est logique. Mm.
Et dans le jury, il y a également ton acteur mexicain.
Voilà, c'est ça. Il y a deux acteurs aussi, moi, que j'aime beaucoup. C'est Willem Dafoe et Gaël Garcia Bernal.
Qui lui est venu plusieurs fois à Cannes avec des films, voilà, donc c'est habitué. Hein.
Exactement.
Et Dafoe, ça fait la boucle avec Spider-Man. Eh oui.
Eh ben oui, c'est vrai. Mais ouais, Dufault, ouais, c'est
un... Non, mais c'est, ça va être un jury, ouais, je pense, assez complet.
Tu vois,
William Dufault,
je l'aurais bien vu dans Joe, tu vois. Lui, il a la gueule faire un redneck.
Ouais, ouais, moi, ouais, je
la voix, sa peau qui est assez bizarre.
Mais maintenant qu'il n'y a plus Lars von Trier, on nous ressort William Dafoe, c'est ça, en fait, le truc.
Eh bah oui, bah oui.
C'est ça, mais c'est ça, le truc.
D'ailleurs, un journaliste a posé la question à Thierry Frémaux à la conférence de presse. Bon, est-ce que Lars von Trier est toujours persona non grata? Apparemment, il a esquivé la question.
Ah, c'est dommage pour Cannes, parce que c'est quand même un beau provocateur, quand même, ce Lars von Trier.
Ah ouais, il en faut des provocateurs. Hein.
Ça fait du bien à Cannes, ouais.
Bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a oublié personne dans ce jury.
Peut-être
s'il y a l'actrice du passé de, ah, non, oui, d'une séparation, pardon.
Voilà, il y a aussi une comédienne sud-coréenne.
D'accord.
Mais entre-temps, on se renseignera et d'ici voilà, une semaine, on sera bien chaud, on sera bien dans le bain. Et donc, du coup, on aura appris toute leçon et on pourra vous dicter tout ça.
On vous parlera plus aussi, bien entendu, des autres compétitions qu'il y aura, oui, à côté, qu'on va, oui, aussi couvrir.
Oui, parce qu'il y a pas mal, il y a de bons mondes en casting des réalisateurs.
Ouais, c'est intéressant. Ouais.
Il y a de belles petites perles.
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.